Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Cortés et ses soldats, accompagnés de leur interprète, la Malinche Donna Marina, en avril 1519, alors qu'ils viennent de débarquer sur la côte est du Mexique. Deuxième partie, la Malinche, la compagne et l'interprète de Cortés. Son père et sa mère étaient des seigneurs d'une ville à laquelle étaient assujettis plusieurs villages. Elle-même, nous rapporte-t-on, gouverne depuis son enfance à plusieurs vassaux. Très jeune, elle perd son père. Sa mère, remariée à un notable, va enfanter un fils. Dès lors, elle délaisse Marina, au point de la priver de ses droits de noblesse pour les donner à ce fils qui désormais a toute sa préférence. Devenue indésirable dans son propre clan, Marina est abandonnée en pleine nuit aux mains de la population d'un village éloigné. Pour donner le change, sa mère fait croire à sa mort en présentant comme étant le sien le cadavre d'une esclave sacrifiée la nuit de l'abandon. Les gens du village qui la recueillent ne veulent pas s'embarrasser d'une bouche à nourrir, ils donnent à leur tour Marina, qui par un étrange coup du sort, se retrouve finalement aux mains de Cortés. Si personne ne remet en doute le caractère exceptionnel de ses dons et de son intelligence, on s'est en revanche interrogé sur les motivations qui ont pu pousser cette jeune fille à embrasser la cause des conquistadors et la conquista tout entière. Son origine, les épreuves de sa jeunesse en sont peut-être l'explication. En s'alliant à ceux qui allaient devenir les maîtres du pays, elle allait prendre une revanche sur les siens, une revanche sur le destin. Les siens l'avaient abandonnée ? Elle avait vécu en esclave parmi son propre peuple alors qu'elle était de noble extraction. Elle n'avait donc plus rien à espérer de son peuple. Sa rencontre avec Cortés va non seulement lui donner l'occasion d'en découdre avec le destin, mais aussi de découvrir une religion qui, à de nombreux égards, répond à ses aspirations. L'esclavage et les sacrifices humains lui inspirent une horreur secrète. Nombreux sont les habitants du Mexique à penser comme elle. Or, dès leurs premières expéditions, les conquistadors ont refusé de prendre des esclaves, affirmant qu'à leurs yeux, il était indigne d'un chrétien d'asservir un homme libre. Ainsi, ces nouveaux venus, ces hommes extraordinairement étranges ressemblant à des dieux, pouvaient sans doute aux yeux de la Malinche passer pour des libérateurs. Bientôt Cortés n'apparaît plus jamais sans Marina, au point que ses propres soldats, puis les Indiens, le surnomment Malinxin, l'homme de Malini, qui est le premier nom de Marina. Un curieux contresens a voulu faire de Malinche le surnom de Donna Marina. Mais c'est Cortés qui d'abord sera surnommée Malinche. Donna Marina, elle, sera la femme de Malinche. Durant le mois de juin 1519, Cortés est confronté à une première mutinerie parmi ses hommes. Certains des mutins sont des fidèles du gouverneur de Cuba, Velázquez, ennemi juré de Cortés. Ils exigent de repartir pour Cuba, expliquant que l'or accumulé depuis des mois doit être livré comme convenu à Velázquez. Cet épisode ne va pas arrêter Cortés, qui, on l'a vu, est un virtuose de la ruse et du stratagème. Pour revenir à Cuba, il faut des bateaux. Il n'en possède alors plus que 4. Il fait arrêter et mettre au fer les chefs du complot. Puis, le plus naturellement du monde, chose ahurissante, il fait saborder sa propre flotte. Plus de bateaux, plus de retour à Cuba, donc plus de problèmes. Quant aux mutins, il leur propose tout simplement d'empocher l'or destiné au gouverneur. De l'or, on en trouverait toujours assez plus tard. C'est un coup de maître, risqué certes, mais réussi. Cortés peut à nouveau compter sur l'ensemble de ses soldats pour se lancer à la conquête de Mexico. Dans un premier temps, il y expédie une ambassade, dont fait partie Marina, ambassade chargée de cadeaux, un trône ouvragé et de nombreuses parures. Quelque temps après, Marina revient, accompagné d'une délégation choisie par Moctezuma lui-même. « Moctezuma, dit-elle, se dit prêt à entendre les requêtes des soldats de Cortés. Mais il ne pourra pas rencontrer le roi, personne sacrée entre toutes. Qu'à cela ne tienne, puisque Moctezuma ne veut pas venir à nous, nous irons à Moctezuma. » On se met en marche. Les villages traversés offrent tous les mêmes affreux spectacles de sanglants sacrifices. À mesure que l'on approche de Mexico, les soldats Cortés ont le sentiment de traverser l'enfer.
Je me rappelle que sur une place où s'élevaient des oratoires, les habitants avaient réuni tant de crânes humains, et d'ailleurs avec un tel ordre que l'on en pouvait faire le compte. Il me sembla qu'il y en avait plus de 100 000. Je le répète encore, environ 100 000. Dans une autre partie de la place, on voyait également des monceaux d'os dépouillés de leur chair en quantité innombrable. De longues solives retenaient d'un bout à l'autre un grand nombre de têtes qui pendaient. Trois prêtres étaient préposés à la garde de ces ossements et de ces crânes dont ils étaient responsables. Du reste, des spectacles pareils nous attendaient à mesure que nous nous enfoncions davantage dans le pays. Car dans tous les villages, ces horribles choses se présentaient également au regard.
Chaque ville traversée est l'occasion de convertir l'ensemble des habitants. On dresse une croix, on célèbre une messe. Les prosternations des soldats de Cortés étonnent les Indiens. Comment des dieux peuvent-ils s'humilier ainsi? Le père jésuite qui accompagne Cortés déroule invariablement le même sermon en forme de synthèse du dogme chrétien. Donna Marina traduit. Elle est comme habité par une force inconnue. Nul ne sait vraiment si sa traduction est fidèle. Ce qui est certain, c'est qu'elle obtient ce que veut le prêtre. À la fin du sermon, Cortés exige la destruction des idoles.
À peine avait-il dit ces paroles que nous nous réunîmes 50 soldats. Nous montâmes et nous précipitâmes les idoles qui roulèrent en morceaux. C'étaient des sortes de dragons épouvantables, grands comme des veaux, et d'autres figures représentant des demi-corps d'hommes et des chiens de haute stature, le tout de fort mauvais aspect.
La marche inexorable des conquistadors vers Mexico sème cependant un certain désarroi parmi les populations. Car si les Indiens ont assez facilement accepté la conversion au christianisme, il n'en a pas été de même des prêtres et des dignitaires locaux. Un vent de panique s'est mis à souffler sur le pays. On ne bouleverse pas en quelques mois des traditions installées depuis des décennies. Et puis, au-delà de ces seules réticences, la conquête de la capitale va se révéler plus ardue que prévu. Moctezuma manifeste une attitude des plus ambiguës. L'historien Tzvetan Todorov, qui s'est beaucoup passionné pour cette question, a bien montré comment ce choc de deux cultures, si étrangères l'une à l'autre, se résumait à deux interrogations incompatibles. En effet, si chez les conquistadors la question est « que faire ?», chez les Indiens, elle est « comment savoir ?». Face à l'arrivée des Espagnols, les Aztèques n'ont pas mis en place une tactique de défense visant à repousser l'envahisseur. Ils se sont comme figés dans cette interrogation en lien avec leurs croyances qui repose essentiellement sur l'interprétation des signes. Je l'ai dit dans le passé, les dieux s'étaient exprimés par une prophétie annonçant la venue dans le pays de Teul, c'est-à-dire de divinité. Avant d'agir, il fallait donc d'abord savoir si les Espagnols étaient vraiment des Teul. Donna Marina, épousant clairement le camp des conquistadors, se fait l'interprète de ces signes, tentant à chaque rencontre avec ses semblables de leur prouver que Cortés et les siens sont bien des dieux qu'il est impensable de combattre. Elle-même échappe à ces superstitions partagées par son peuple comme si elles ne lui avaient jamais été enseignées. Elle s'en affranchit complètement. Il semble que son esprit se soit le plus facilement du monde adapté à la pensée occidentale, sans contrainte ni douleur. Ses dispositions à la pensée rationnelle sont telles qu'un jour on la voit se moquer des conquistadors lors d'une scène mémorable.
Nos éclaireurs à cheval arrivèrent jusqu'à la place principale et s'introduisirent dans les cours autour desquelles étaient bâties les habitations. Il leur sembla qu'on les avait repeintes depuis peu de jours et embellies comme ces Indiens le savent très bien faire. L'un des cavaliers crut même que cette blancheur qui reflétait la lumière était de l'argent, et il accourut à bride abattue pour dire à Cortés que les murailles étaient faites de ce métal. Doña Marina fit observer, en riant, que ce n'était sûrement que du plâtre ou de la chaux, et nous-mêmes en riâmes bien fort, et de son argent et de son enthousiasme. Nous ne perdîmes depuis lors aucune occasion de rappeler au messager que toute chose blanche était pour lui de l'argent.
À l'époque, Mexico est une cité entourée d'eau et pourvue de nombreux canaux, un genre de Venise. Cortés et ses soldats, une fois parvenus au cœur de la ville, sont pris au piège. Le siège du temple va se solder par une débâcle épouvantable. Jouant sur les accès aux canaux, les habitants parviennent à enfermer les conquistadors dans une nasse dont ils sortiront réduits au dixième de leur effectif. Cet épisode emblématique de l'histoire du Mexique va alimenter une controverse qui aujourd'hui encore reste brûlante. Si la plupart des Mexicains acceptent la mixité de leur culture, faite d'héritages aztèques et de christianisme espagnol, nombreux sont ceux qui aspirent à une restauration de la culture d'antan. Dans cette perspective, le personnage de Doña Marina ne manque pas de nourrir la polémique. Elle était une Indienne de sang noble. En adoptant la culture des envahisseurs, elle a trahi et son sang et son peuple. Plus encore, en donnant un fils à Cortés, fils qui sera anobli et terminera sa vie en Espagne, elle incarne la mort de toute une civilisation. Aujourd'hui encore, une fois par an, dans certains villages du Mexique, on brûle une poupée à son effigie en mémoire de sa trahison. Par ailleurs, en écho à cette supposée trahison de la Malinche, est apparue depuis le milieu du XXe siècle une nouvelle notion, le malinchisme. Le malinchisme désigne l'imprégnation d'une culture colonisatrice dans une société primitive. Ce terme reste très ambigu. Certains y voient une vertu, une preuve de la fécondité qu'apporte la mixité, une raison pour renoncer au communautarisme, qui sont synonymes d'enfermement, de sclérose, de stérilité. D'autres, à l'inverse, y voient la pierre d'angle de toute décadence et surtout une arme de destruction massive inventée par le capitalisme occidental. Pour autant, la culture mexicaine se défend d'être exclusivement reliée au monde aztèque. Après tout, lors de l'arrivée des conquistadors, les Aztèques n'étaient installés que depuis un petit siècle. On ne peut donc affirmer, sans faire une grave erreur de perspective, que la culture mexicaine d'origine était adepte des sacrifices humains et cannibales. Il reste que Doña Marina, la Malinche, ne laisse de fasciner les historiens qui voient en elle une figure d'exception bien avant un symbole de mixité culturelle réussie. Le fils qu'elle aurait eu de Cortés ou de l'un de ses lieutenants sera le premier métis anobli par la couronne d'Espagne. Marina fait donc partie de ces icônes qui sont des exemples uniques dans l'histoire. Elle reste le symbole de l'union entre deux civilisations que tout opposait. C'est la fin de ce double épisode consacré à Cortés et la Malinche. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.